Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Visible, ça y est, il fonctionne. Bah oui, mais non, mais quand ça part pas bien, c'est généralement, on fait 5, 4, 3, 2, 1, 0 et on recommence. Bon, l'actualité du jour, c'est l'inflation. On a eu les chiffres d'Eurostat, on a un recul de premier depuis 17 mois en zone euro. C'est stable en France. Le point noir, c'est que ça recule parce que les prix de l'énergie se replient un peu, mais ça se détériore dans l'alimentaire. Et on voit d'ailleurs qu'en France, la consommation a baissé au mois d'octobre, nous dit l'INSEE. À l'inverse, le taux d'épargne, lui, augmente. On ouvrira à cette occasion notre baromètre Odoxa Abeille Assurance Challenge BFM Business, très largement d'ailleurs consacré à l'inflation. À quel niveau situez-vous cette inflation? Quelles sont les dépenses que vous avez commencé à arbitrer? Et comment est-ce que vous voyez la suite? Emprunter ou alors puiser dans votre épargne? Aujourd'hui, Matignon envoie au préfet une sorte de vade-mecum, de mode d'emploi, de comment est-ce que l'on va faire si on a des problèmes d'approvisionnement en électricité, délestage, baisse de tension, voire des coupures temporaires. On évoquera le SMIC aussi. Ça y est, le groupe d'indépendants, d'experts indépendants, comme chaque fois, a été consulté. Il déconseille, oh surprise, il déconseille un coup de pouce au SMIC pour le 1er janvier. Et puis, il y a plein de traditions de Noël, les marchés de Strasbourg, puis la grève à la SNCF. Ça devient une tradition de Noël. Bonjour Mathieu Plane.
Bonjour.
Je testais mon micro, je me demandais
marche.
Si... Mais oui, ça... non, mais c'est pas... Ah d'accord. Enfin voilà, je vais vous expliquer, j'ai deux boutons, habituellement j'appuie sur celui de gauche, ce que je fais tous les matins, et là aujourd'hui c'est celui de droite. Alors voilà pourquoi ça a mal démarré. Vous êtes directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Christian Saint-Etienne, bienvenue.
Bonjour.
Professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, dernier ouvrage en date, Le libéralisme stratège contre le chaos du monde. Chez Odile Jacob et Gaël Sliman, le président d'Odoxa. Bonjour Gaël.
Bonjour.
À l'occasion donc du baromètre mensuel avec Abeille Assurance. Donc je vous donne juste les chiffres. 10% en novembre en rythme annuel pour l'inflation zone euro. C'était 10,6% au mois d'octobre. 6,2% en France. Pas au sens harmonisé. Hein. L'indice des prix à la consommation INSEE, c'est stable. En harmonisé, donc comparable avec les niveaux européens et les autres pays, on est à 7,1%. Mais on voit que l'alimentaire, ça monte. Et puis que la consommation a reculé en octobre de 2,8% sur les biens. C'est un chiffre en volume qui a été publié par l'INSEE. À l'inverse, le taux d'épargne augmente. Il est aujourd'hui à 16,6% du revenu disponible. Et en juin, on était presque un point en dessous. On était à 15,8%. On a plus de 500 milliards d'euros d'encours sur le livret A et le LDDS, la Banque de France n'a jamais vu autant de cash accumulé sur les comptes courants, même si pourtant, ils ne sont pas rémunérés. Donc on avait un grand espoir de croissance porté par la désépargne et le fait que le cash accumulé pendant Covid allait sortir, il ne faut peut-être pas trop y compter. La première question, Mathieu Plane, avec les chiffres que l'on a là, peut-on commencer à utiliser les termes « pic d'inflation atteint » selon vous?
Je m'emballerai pas là-dessus. Enfin, notamment pour la France, en fait. Hein. Pour la zone euro, c'est peut-être un peu différent. D'abord, il faut rappeler que même si on passe le pic d'inflation, ça ne veut pas dire que les prix baissent.
C'est très important.
C'est important. C'est-à-dire qu'on passe de 10,8 à 10, c'est-à-dire qu'on a un ralentissement de la hausse des prix. Ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Hein. Donc, je pense qu'il y a aussi cette confusion, souvent, hein, dans le ralentissement de la hausse, ce n'est pas une baisse des prix. Donc, on peut avoir éventuellement envisager un début peut-être de pic d'inflation dans certains pays de la zone euro, mais c'est pas le cas pour la France, je pense, pour une raison simple, hein, c'est que en réalité, on va avoir des revalorisations des tarifs de l'énergie, notamment de l'électricité et du gaz en début d'année 2023, en janvier et février, hein, les tarifs réglementés pour l'électricité et le gaz de hausse de 15% hein, qui est attendu, qui vont contribuer quand même assez significativement.
C'est le fameux bouclier 2023,
l'évolution du bouclier tarifaire
est moins généreux que le précédent.
Et la fin de la remise carburant. Donc on a ces deux éléments qui ont quand même permis de limiter la hausse des prix, hein, notamment sur l'énergie par rapport à d'autres pays de la zone euro. On garde le bouclier tarifaire, mais il protège un peu moins. Enfin, en tout cas, on n'a qu'à une revalorisation des tarifs de l'énergie, ce qui fait que ça va contribuer quand même à alimenter l'inflation. Donc, avec les effets de base, donc je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais l'ensemble des éléments, on attend plutôt un pic d'inflation pour la France en janvier-février, autour de 7%. Et puis, progressivement, si on a une stabilité des prix de l'énergie, on peut imaginer un ralentissement progressif de cette inflation sur l'année. Mais on ne revient pas à 2% d'ici fin 2023. Nous, notre prévision, c'est 3,5% à la fin 2023. Donc, on a ce pic et puis après, on ralentit.
Mais 3,5% pour fin 2023.
Oui. Ouais.
Et je vais commencer à croire que Gilles Berset a raison hein, dans le papier. Ben, il a commis, avec le papier qu'il a commis dans Telos, où il explique que on a payé pour attendre, mais que de toute façon, la facture arrivera.
Juste, on a acheté la moindre hausse avec de l'endettement public.
Oui, alors il y a quand même un petit point
oui, Mathieu.
Qui est important, c'est qu'on limite les effets de second tour quand même.
Hein. Oui, bien c'est vrai.
Et oui, mais une fois que
on pourrait les avoir au
Oui, mais sauf que quand on commence à les enclencher, c'est compliqué. C'est-à-dire que l'avantage du bouclier, il est double. Il y a la question de ciblage, on pourrait revenir là-dessus, mais qui est très complexe. Mais c'est que ça évite, effectivement, quand vous avez une inflation, si elle avait été 3 points supérieure, parce qu'on considère que le bouclier a protégé à peu près 3 points d'inflation, on aurait dû certainement avoir des hausses de SMIC supérieures, des hausses de prestations, tout ce qui est indexé aurait augmenté de façon plus forte. Il aurait fallu augmenter plus les salaires pour limiter le choc sur le pouvoir d'achat. Et donc, vous avez une inflation auto-entretenue qui aurait été plus forte. Et c'est là où ça devient difficile de la ralentir. Donc, c'est vrai qu'en fait, en bloquant initialement, vous avez quand même, vous reportez pas tous les effets. Et c'est ce que dit un peu Gilbert. Moi, je pense qu'il y a quand même une partie des effets que vous avez absorbés.
Comme on le disait hier, ça va dépendre du timing. Parce que
on a de la chance et que les prix de l'énergie baissent fortement au printemps 2023, ça aurait été une stratégie optimale par accident, puisque ça n'a pas été conçu pour ça. Mais
on peut leur prêter quand même l'idée d'avoir aussi pensé à ça en décidant ces dispositifs.
Comme d'autres, j'avais proposé il y a un an qu'on fasse ça. Donc, mais effectivement, je suis favorable à ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire acheter la moindre hausse des prix par ce qui est regrettable de l'endettement public. Alors, ceci étant, si au premier semestre l'inflation ne baisse pas parce qu'on va arrêter d'acheter les 3 points d'écart, à ce moment-là, il faudra être extrêmement vigilant pour que les effets de second tour ne s'enclenchent pas à ce moment-là, alors qu'au niveau européen, ça se ralentirait. Mais pour l'instant, on est tous pendus à ce qui se passe, même si on ne le mentionne pas, à l'Ukraine, hein, puisque si jamais on avait une solution en Ukraine. Il ne faut pas oublier, alors c'est assez violent, hein, mais il ne faut pas oublier que les bombardements de civils par la Russie, c'est peut-être un appel à la négociation. Ça peut sembler insupportablement violent, mais c'est probablement ce qui est en jeu pour transformer les attentes du gouvernement ukrainien dans la négociation.
Alors, quand on parle d'inflation, on est intimement proche de notre baromètre mensuel avec Abeille Assurance, Gaël Sliman. Quand on regarde la France, donc j'ai dit l'indice des prix à la consommation, je ne prends pas l'harmonisé, hein, je prends l'indice des prix à la consommation à 6,2, mais la composante alimentaire, ça se dégrade. Et alors, évidemment, on se demande, face à une inflation quand même qui... Il y a deux choses d'abord. On va peut-être dire un mot de la façon dont l'inflation est perçue par les gens. Parce que je vous ai dit 6,2, c'est un chiffre calculé par l'Institut National de la Statistique. Il porte sur le mois de d'octobre en rythme annuel. Et régulièrement, on essaie de voir comment est-ce que les gens perçoivent l'inflation et où ils la placent. Et alors là, l'écart est...
L'écart est vertigineux. Vous savez qu'il y a une météo perçue, une température perçue, une température réelle. Là, s'agissant de la hausse des prix, où est le réel ? La perception est intéressante quand même, puisque comment est construit le panier ? C'est pas une critique évidemment sur l'INSEE et son travail.
On peut ouvrir un débat sur
eux. On s'appuie sur eux pour tout ce qu'on fait quand on est institut de sondage. Mais dans les pondérations qui sont mises sur les différents éléments intégrés dans le calcul de la hausse des prix, le français, vous et moi, on ne fait pas forcément le même. Et vous avez raison, Nicolas, les gens voient surtout les prix qu'ils achètent, les prix des produits qu'ils achètent tous les jours. L'essence qu'ils mettent dans leur véhicule, le pain, le poulet, tous ces produits qui ont explosé, les pâtes, dont les prix ont explosé sur du deux chiffres. Résultat, quand on demande aux Français aujourd'hui quel est le niveau de la hausse des prix à la consommation sur les 12 derniers mois, ils nous disent en moyenne 15,8%. C'est 2,5 fois le niveau calculé par l'INSEE à date. Et vous avez près de la moitié de la population, hein, 47% de la population, qui nous donne un chiffre à 15% ou plus. Certains sont 47% à
18, disent que c'est 15% et plus.
Alors, le mois dernier, parce que vous avez raison de le rappeler, c'est ça qui est intéressant, on suit cet indicateur depuis un moment. Le mois dernier, ils étaient à 12,5. On était donc sur du x2 par rapport à l'indice INSEE. Le mois précédent, on était à un peu plus de 8. Et avant la guerre en Ukraine et l'année dernière, par exemple, avant la hausse spectaculaire de l'inflation, ils étaient quand même sur une inflation perçue supérieure à ce qu'estimait l'INSEE. On était à 0,6 à l'époque en réel. Et on nous donnait 2 points de plus. On était à 2,6, sans doute aussi sur cette évolution des prix du quotidien. Et ça a évidemment des conséquences importantes sur leur comportement de consommation, les arbitrages.
On va en dire un mot. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Quand on regarde effectivement les principaux produits pour lesquels les prix ont augmenté, la viande surgelée, c'est 30% sur un an. Hein.
Ah oui. Donc, là, c'est sûr que... Le poulet, je crois que c'est quelque chose comme ça.
C'est viande surgelée, pâte, huile, papier toilette, beurre, œuf et le dernier aliment pour animaux, plus 15% sur un an. Est-ce que pour les économistes, cet écart astronomique de 2,5 entre un chiffre statistique et la façon dont la population vit les choses, c'est un sujet important ou c'est un classique et malheureusement, on finit par vivre avec.
Les deux.
Ouais. Les deux. Christian Saint-Etienne.
Classique et en même temps, c'est important.
Et c'est important pour un économiste ou pour un homme politique, en fait
Les deux. Mais par rapport à ce que disait Gaël, si on est propriétaire de son appartement et qu'on se déplace en transport en commun, en plus avec une carte payée par son entreprise, directement ou indirectement, on n'a pas du tout la même inflation que si on a un loyer libre et si on met l'essence dans sa voiture tous les deux jours. Voilà, donc ça, il faut toujours le rappeler, c'est un taux d'inflation moyen. Et il y a une distribution très large de taux d'inflation selon les différentes catégories de population.
47% 10, 15 et plus quand même. Hein. Oui. 47% des sondés.
Donc c'est normal qu'il y ait une appréciation différente. D'accord. Maintenant, l'ampleur de l'écart est quand même surprenant. Si on prend notamment la réalité du quasi-blocage, ou en tout cas de la hausse très, très modérée des loyers, donc les gens n'intègrent pas ces éléments quand ils répondent. Ils répondent à chaud sur la base des prix de l'essence ou de l'alimentation qu'ils viennent de payer. Mais c'est important pour les économistes parce que ça va entraîner une demande de hausse des salaires et on est toujours extrêmement vigilant sur ce point.
Mathieu, par rapport à ça ?
Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut voir qu'aujourd'hui, dans l'inflation qu'on observe, y compris l'INSEE, la première composante, maintenant, c'est l'alimentaire.
Oui.
La première contribution, c'est l'alimentaire. Alors, avant, c'était l'énergie. Or, ces deux composantes, les ménages, ils sont extrêmement sensibles. C'est logique. Vous courez régulièrement. Quand vous avez une voiture, vous allez faire le plein d'essence. Vous voyez l'évolution des prix. Et donc, effectivement, il y a tout. Il faut savoir que cet alimentaire... Et l'énergie, c'est pas rien, mais c'est 25% de notre consommation. Donc il y a 75% de notre consommation dont on parle pas. Par exemple, aujourd'hui, les services, qui font 50% de la consommation, augmentent de 3%. Et dedans, vous avez des services financiers, vous avez des services de logement, vous avez les coiffeurs, le garagiste, etc. Et effectivement, c'est pas des dépenses qui sont récurrentes ou qu'on voit pas de la même façon. Donc je pense qu'il est assez logique que les ménages soient extrêmement sensibles à l'inflation aujourd'hui et qu'ils la perçoivent comme forte parce que c'est surtout sur les dépenses du quotidien. À mon avis, il y a un élément comme ça. Et puis l'autre élément, c'est que, ce que disait un peu Christian, c'est cette inflation, en fait, on est sur une moyenne. Or, chacun a sa propre inflation en fonction de son panier de consommation. Et face à ce choc qu'on vit, on a une hétérogénéité qu'on a rarement vue. C'est-à-dire qu'entre le cadre parisien qui est en appartement, qui se déplace en transport commun, qui a un logement qui est plutôt bien isolé, qui va avoir une fête, ou en vélo, et donc finalement on va assez peu voir cette inflation. Et le ménage rural ou périurbain qui a deux voitures, un logement individuel, une maison mal isolée, lui il voit sa facture énergétique exploser. Et puis en plus il y a l'autre chose, c'est-à-dire que il y a la réponse du revenu à cette inflation. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des revenus qui sont indexés. Typiquement, on parlait du SMIC ou des prestations sociales. Mais les salaires, ils sont libres. Et donc, vous allez avoir deux choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont subir l'inflation différemment. En gros, je pense qu'il y a des ménages qui ont 2 ou 3% d'inflation. Il y en a qui sont à 15%. Et par contre, le revenu ne va pas augmenter aussi de la même façon. Donc, vous avez des gens qui vont perdre des deux côtés, qui vont à la fois un choc inflationniste important, mais dont le salaire ne va pas forcément être valorisé. Et donc ça va être difficile. C'est que c'est à la fois un choc macroéconomique, On voit, hein, évidemment, le premier choc pétrolier, 3 points de PIB prélevés sur l'économie française, mais c'est aussi une multitude de chocs microéconomiques. Et donc, la réponse politique, elle est complexe. Vous ne pouvez pas faire du cas par cas. Et ça, ça reste extrêmement délicat. Donc, c'est un choc macro, mais aussi très inégalitaire.
Alors, ouais, allez-y, Chris.
Non, non, c'était juste moi une question. Enfin, je comprends pas. La viande virgelée, surgelée à plus 30, c'est quoi la raison?
Eh bien, c'est.
La cité des surgelés.
Elle est, c'est très consommateur d'énergie.
Oui, mais enfin bon.
Bah, c'est ça. En fait, la raison de la hausse des prix alimentaires, c'est l'énergie, et puis tous les intrants industriels, notamment les emballages, le carton qui a considérablement augmenté.
Il y a les engrais aussi qui ont forcément augmenté, ainsi de suite. Mais enfin bon, c'est quand même.
Il y a peut-être un autre paramètre.
Gaël Sliman, oui.
Dans tout ce qui a été dit, je souscris évidemment. Il y a peut-être aussi un autre paramètre qui joue, on le mesure sur toutes les sensibilités au prix, pour le coup les neurosciences qui le montrent, on a une aversion à la perte, on a des mécanismes psychologiques humains qui font qu'on ne perçoit pas tant que ça quand les choses s'améliorent,
oui.
Ou quand on a son revenu qui augmente, ou quand des prix n'augmentent pas, en revanche on ressent très fortement la perte.
Oui, bien sûr.
Et donc dans les chercheurs en neurosciences on fait des travaux qui montrent que par exemple vous pouvez ressentir une émotion beaucoup plus forte quand on vous reprend 10 euros, que l'émotion positive ressentie que quand on vous en a donné 20. Et donc ça veut dire que
même mieux que ça, Gaël, c'est que quand on vous prend 10 euros, c'est un vrai scandale, et quand on vous en rend 20,
c'est non, normal.
C'est normal, c'est mais justice. C'est surtout pas assez. Ouais. Non, on l'avait vu avec l'aller-retour sur la CSG à la sortie des Gilets jaunes, le retour, enfin, ce qui avait été pris au début a été rendu, et tout d'un coup, c'était peanuts.
Ah, surtout, on n'a pas entendu les salariés dire oui, youpi, notre salaire a augmenté. Par contre, on a entendu les retraités dire que leur retraite avait baissé. Quoi.
Et du coup, c'est vrai que dans des périodes où les choses changent et où il y a dans, alors là il n'y a pas de positif, mais même quand il y a du positif et du négatif, on retient beaucoup plus le négatif, et c'est aussi un sujet pour les politiques,
mais
les hommes politiques.
Cette question va un peu plus loin, parce que là on constate un grand écart entre ce que dit l'INSEE et la façon dont c'est perçu, et on comprend très 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 bien pourquoi on en est là, sauf que la consommation recule. La consommation recule, le taux d'épargne augmente. L'OFCE s'est un peu arraché les cheveux pour essayer d'imaginer ce que serait la croissance si on avait un phénomène de désépargne post-Covid. On peut plus compter sur le phénomène.
Il y a un an,
on
avait fait ça.
Vous aviez estimé si on avait, voilà.
Je peux juste rappeler ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une accumulation d'épargne, de surépargne, qui est pas l'épargne, sachant que les ménages français épargnent déjà traditionnellement beaucoup, de l'ordre de 220 milliards par an. Là, depuis la fin 2019, il y a à peu près 170 milliards d'épargne en plus.
En plus.
Donc on a ce paradoxe, c'est qu'on a effectivement un pouvoir d'achat en berne, mais j'allais dire. De façon macroéconomique, les comptes en banque n'ont jamais été aussi fournis.
Qu'est-ce que dit la Banque de France? On n'a jamais eu autant de cash sur les
banques. Alors, avec pareil, c'est réparti. De façon, l'épargne est très concentrée sur 25% des ménages. 80% est sur 25% des ménages. Et donc, c'est vrai que le scénario qu'on avait regardé, qui était un scénario de désépargne, si 20% de cette épargne était reconsommée sur un an, on avait à peu près 2 points de croissance en plus.
Oui.
Ce qui était très significatif. Donc, il y a une réserve importante. Mais aujourd'hui, le scénario n'est pas envisageable. Il n'est pas envisageable pour une raison simple. L'incertitude en fait fait qu'on a des comportements extrêmement prenants. On n'est jamais revenu au niveau d'épargne d'avant crise, et même au troisième trimestre on revoit un rebond de cette épargne. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous regardez les enquêtes, y compris de celle de l'INSEE, auprès des ménages, ce que vous voyez, c'est que la perception des ménages sur le niveau de vie à venir en France n'a jamais été aussi basse depuis le début des années 70. Donc plus bas que toutes les crises, plus bas que crise financière, crise des gilets jaunes, crise Covid, enfin équivalent au premier confinement en fait. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est que les ménages disent aussi qu'ils ont beaucoup d'opportunités d'épargner. C'est-à-dire qu'on voit ce mouvement-là, c'est que les ménages considèrent qu'ils ont un choc sur le pouvoir d'achat qui est réel, qu'ils l'anticipent durable, et par contre, ils considèrent qu'ils doivent épargner. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Et donc, on a une forme de prudence qui s'installe, parce que cette incertitude, elle n'a jamais été aussi élevée, et donc les ménages ne sont pas enclins à consommer leur revenu, en tout cas, épargner plus que d'habitude.
Ce qui est frappant pendant, c'est que l'inflation, c'est quand même le poison de l'épargnant et c'est le bonheur de l'emprunteur. On a 2 minutes 20, on va marquer une pause.
Je voulais faire une remarque.
Parce que je suis désolé, mais c'est un moteur de croissance qui est en train de s'affaisser, c'est la consommation.
Oui, mais justement, en même temps, ça peut être un levier de rebond extraordinaire parce que j'évoquais tout à l'heure l'incertitude majeure, quand même, qui est la guerre en Europe, puisqu'elle, même si elle est à l'Est, néanmoins, elle est là. Et donc, si jamais ça s'arrête, non seulement ça conduit à une baisse des prix de l'énergie, mais on peut avoir cet effet attendu sur l'épargne, c'est-à-dire que d'un seul coup, les vannes s'ouvrent. Et voilà, ce que je dis au fond, c'est on n'est pas, alors que tout le monde anticipe une année 2023 absolument monstrueuse, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, on ne peut pas la dater, on ne peut pas la nommer, mais si on devait avoir quelque chose comme un accord sur l'Ukraine, on pourrait avoir une deuxième partie de 2023 qui serait remarquable.
Moi, je vous dis que si la guerre s'arrête de manière rapide et que personne ne s'y attend, on va faire 3% de croissance en 2023.
Bah oui, hein. Je pense la même chose.
Ouais, ce sera un peu rapide.
Ouais, un peu rapide.
Mais... Ça dépend quand elle s'arrête.
Ouais.
Si elle s'arrête en janvier, c'est pas pareil si elle s'arrête
évidemment.
En janvier.
Évidemment. Et puis la question, c'est quelles seront les relations avec la Russie après ?
Oui.
C'est-à-dire quand même la
première fois quand elle s'arrête,
Non,
non, mais évidemment, c'est quand on dit que ça s'arrête, c'est dans le cadre du début d'un processus de paix.
Je vous donne la parole dans un instant, Gaël Simon, parce qu'il reste un peu moins d'une minute. Donc on va poursuivre l'observation des résultats de l'enquête avec Abeille Assurance Challenge BFM Business réalisée par Odoxa. Donc chaque premier jeudi du mois, on a vu où est-ce qu'on situait l'inflation. Maintenant, eh bien, il y a des arbitrages dans la façon dont les gens vivent au quotidien. Et puis, bon, il y avait la question de l'épargne, elle est également abordée. Vous nous en direz un mot pour voir un peu comment les choses ont évolué. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Mathieu Plane, il est directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Il a publié Le libéralisme stratège contre le chaos du monde chez Odile Jacob. Gaël Sliman, le président d'Odoxa, à l'occasion donc de la publication de notre baromètre mensuel avec Abeille Assurance, Challenge et BFM Business. On a regardé, on poursuit notre analyse de l'inflation telle qu'elle est vécue et telle qu'elle est exprimée dans les questions posées. Et notamment, quelle attitude face à l'inflation en termes d'épargne, en termes de recours aux prêts.
Et en termes de conso. Alors, alors là aussi, c'est quelque chose qu'on suit dans le temps depuis le début de la crise. L'ensemble des dépenses, on en a testé une demi-douzaine, des grandes catégories de dépenses. Les Français nous disent qu'ils ont réduit, ou qu'ils font attention à essayer de réduire le montant de leurs dépenses dans chacun de ces postes parce qu'il y a cette inflation. Donc, c'est le cas sur les dépenses de chauffage. On a un tiers des Français qui nous dit avoir beaucoup réduit ses dépenses dans ce domaine. Et on est à 79% quand on prend l'ensemble de ceux qui nous disent avoir fait un geste dans ce domaine. Les dépenses de loisirs, 44% nous disent les avoir beaucoup réduites. Celles de biens de consommation courants, comme les vêtements, on est à 41%. Les déplacements en voiture, 35%. Les produits domestiques, 24%. Et les achats de produits alimentaires, 21%. Alors, c'est pas la baisse de consommation dans ce domaine.
Dans le micro. Oui, hein.
Il s'agit bien de la part de Français qui nous dit le faire. Ça signifie, quand on agrège tout ça, que les trois quarts des Français nous disent regardez maintenant à leurs dépenses dans chacun de ces postes. Et parfois, on est à peu près à un tiers d'entre eux qui y regardent de très près, qui y regardent beaucoup. Et on est en augmentation de 6 points depuis le mois dernier. Donc de façon récurrente, à mesure que les chocs inflationnistes pèsent sur les ménages, eh bien, ils nous disent faire de plus en plus attention à leurs dépenses. Et quand on retrouve l'indicateur de la consommation que vous donniez il y a un instant, Nicolas, effectivement, on n'est pas très étonné avec ces résultats.
C'est le plus fort recul depuis le confinement d'avril 2021, le chiffre de conso en volume sur les biens. Alors.
Et du coup, Mathieu Plane le rappelait tout à l'heure, sur l'épargne aussi, ça a des conséquences, même si la particularité des Français, quand on fait des baromètres internationaux, c'est assez amusant. Les Français nous disent « Ouh là là, ça va mal, donc j'épargne. » Et puis quand ça va bien, quand la situation économique est bonne, ils disent « La situation économique est bonne,
ça pourrait changer.
Donc je mets de côté, j'en profite. » Ce qui fait qu'effectivement, on a des niveaux d'épargne qui sont très élevés. Mais on commence à avoir des gens qui nous disent « Avec ce qui m'arrive, avec cette hausse de l'inflation, j'ai déjà puisé dans mon épargne. » On est à un tiers des Français qui nous dit avoir déjà dû puiser dans son épargne pour faire face à cette hausse de l'inflation. Et là aussi, alors plus ceux qui nous disent qu'ils envisagent de le faire, on arrive à des niveaux élevés et on est en progression constante depuis ces derniers mois. On est à plus 7 points depuis le mois dernier, plus 9 points depuis juin dernier. Donc y compris dans ce domaine-là, parce que l'épargne est tirée par un quart des foyers les plus aisés, en gros, on a aussi un choc sur nos concitoyens.
Et les chiffres se confirment en tout cas par rapport à ce qu'on avait vu le mois dernier. Un mot avant de parler du mode d'emploi pour faire face au risque de pénurie d'électricité pendant l'hiver, je voudrais avoir votre avis sur le SMIC. Il y a le groupe d'experts sur le SMIC qui est toujours présidé par Gilles Berset, que vous connaissez bien, et il a rendu hier son avis. Alors vraiment zéro surprise, il déconseille, Christian Saint-Etienne, au gouvernement d'accorder un coup de pouce au SMIC au-delà de la hausse normale et mécanique du SMIC qui dépend d'une méthode de calcul notamment fondée sur l'inflation qui touche les foyers, les 20% des foyers les plus modestes en France. Il a raison, on a l'impression qu'il se répète inexorablement.
Ben oui, la raison pour deux raisons. La première, c'est que le SMIC a été remonté avec l'inflation.
Et il augmente
plus que l'inflation. Une indexation complète sur l'inflation, qui plus est avec une augmentation de la moitié de la hausse du salaire moyen. Donc les salariés au SMIC, qui doivent être 17 à 18% des salariés en France, sont totalement protégés. C'est probablement dans les comparaisons internationales la catégorie de salariés la mieux protégée dans les pays développés. Ça peut sembler paradoxal, il faut quand même donner les bonnes nouvelles. Donc les salariés au SMIC sont très protégés. Ça a néanmoins des conséquences secondaires qu'on connaît très bien depuis 30 ou 40 ans, c'est que les salaires qui sont juste au-dessus se font manger par la hausse du SMIC, et donc il y a un écrasement de l'échelle salariale qui n'est pas bonne pour la motivation des salariés.
J'ai un auditeur qui m'avait écrit que son épouse désormais était au SMIC, parce qu'elle n'avait pas été revalorisée, elle était au-dessus, puis le SMIC ayant remonté, elle s'est retrouvée, et c'est vrai que c'est dur à vivre,
oui.
De se dire, ah ben je redeviens SMICard, même si en fait fondamentalement la fiche de paye n'a pas été évidemment abaissée.
Et les employeurs d'ailleurs doivent être très attentifs à ça, parce que l'effet démotivation peut être important, même s'ils ne donnent pas une augmentation comparable à celle du SMIC aux gens qui sont au-dessus, ils doivent être très vigilants sur l'effet de rattrapage que vous venez de mentionner.
Après, le problème que l'on a par rapport au SMIC, c'est que pendant plein d'années, on a augmenté le SMIC de manière automatique et puis effectivement, quelquefois, accordé des coups de pouce. Et pour éviter les effets négatifs sur l'emploi, on a baissé les cotisations des patrons. Maintenant, il n'y a plus de cotisations à retirer à un SMIC, il n'y en a quasiment plus. Je crois qu'il doit rester accident du travail et maladie professionnelle, mais sinon, on est à zéro. Donc, pour compenser, on fait une prime d'activité. Mais les syndicats ne sont pas contents parce que la prime d'activité, ce n'est pas du salaire qui ouvre des droits sociaux. Bref, par rapport au fait de ne pas donner de coups de pouce, Mathieu Plane.
Là, c'est évident.
Ah, c'est évident. Allez en parler à Danny Long, qui était là hier, qui nous disait que c'était la seule solution.
Dans le sens où, effectivement, avec l'inflation aujourd'hui, d'ailleurs, le SMIC a augmenté de 8% en un an.
Oui, en un an de 8%.
8%, ouais. Ce qui n'est pas le cas des autres salaires. Donc, c'est vrai que c'est normal, moi, quelque part. Ça protège les salariés les plus modestes de perdre du pouvoir d'achat. Moi, je pense que la question essentielle est la diffusion du SMIC sur les salaires au-dessus. C'est-à-dire que, on l'a dit, celui qui a été embauché ou celle qui a été embauchée à 10 ou 20%, parce qu'elle a un peu d'expérience, parce qu'elle a quelques diplômes, etc., la personne, en tout cas, se retrouve rattrapée par le SMIC. Or, ce n'est pas le contrat initial quand vous êtes embauché. Donc, ça veut dire comment on valorise la qualification. Donc, le risque, c'est effectivement le tassement des salaires, en fait, d'avoir une espèce de trappe à bas salaire qui se constitue. Donc, moi, je pense que la vraie question aujourd'hui, hein, les grands perdants de ce choc inflationniste, en niveau, bien sûr, les gens au SMIC, on ne peut pas dire que leur situation soit enviable. Mais ceux qui perdent relativement en pouvoir d'achat, c'est ceux qui sont juste au-dessus. C'est ceux qui risquent de voir un choc d'inflation important parce qu'ils ont une poids de l'énergie, de l'alimentaire important dans leur panier de consommation. On l'a dit, c'est cette inflation. Mais eux n'ont aucune garantie d'avoir une augmentation de salaire. Et donc, c'est vrai que, vous voyez, quand vous avez une inflation de plus de 10% sur deux ans, un SMIC augmente de 8%, il y a des phénomènes de rattrapage. Et donc, ça va être compliqué. Donc, la question qui peut se poser, c'est pour les salaires juste au-dessus, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un mécanisme d'indexation partielle, je ne sais pas, réfléchir...
La question a été posée.
La question se pose
aujourd'hui.
Parce qu'on va arriver à un tassement. Et donc on se retrouve dans les pays de l'OCDE parmi ceux qui ont le plus faible écart entre le salaire médian et le salaire minimum, quoi. Donc le problème, moi je ne crois pas que ce soit le salaire minimum, je pense que c'est l'évolution de carrière. Qu'on commence quand on n'a pas d'expérience, quand on est jeune et qu'on est au SMIC et qu'on n'a pas de diplôme, plus la prime d'activité, vous arrivez à 1500 euros net.
Oui.
Par contre, le salaire médian, y compris prélèvement prestations, vous allez être à 1008, 1009. Ça veut dire que vous avez 50% des gens qui sont entre 1500 net et 1900. Quoi. C'est ça le problème. C'est-à-dire que du coup, il faut redonner une dynamique de carrière, un profil de carrière pour des gens qui sont là depuis longtemps dans le travail, qui ont de l'expérience, qui ont des diplômes. Donc, effectivement, on ne va pas résoudre le problème, je pense, par le coup de pouce au SMIC, ce qui veut dire qu'il ne faut pas attendre une forte diffusion sur le reste.
Un élément qui a été mis en lumière par Erwan Tison, c'était lundi, je crois, il disait on a aussi fait le choix, alors on sait bien pourquoi ce choix historiquement a été fait, d'accorder des allègements de cotisations qui s'éteignent en sifflet jusqu'à 1,6 SMIC. Mais est-ce qu'on n'a pas créé une frontière à 1,6 SMIC enferme des gens dans cet espace? Parce qu'il y a plein de patrons qui vont éviter de passer des gens à 1,7 SMIC.
Si vous regardez aujourd'hui les allègements de cotisations, hein, entre les allègements Fillon, le CICE, le pacte de responsabilité, vous êtes à 50 milliards
par
an, à peu près. Oui. Avec effectivement une formule dégressive, hein, des allègements de cotisations qui sont maximum au SMIC. Donc vous avez tout pour inciter, en gros, à payer les gens proches du SMIC, parce que vous avez beaucoup d'allègements de cotisations. La prime d'activité, elle est fonction du SMIC aussi. Donc, à la fois du côté du salarié, mais aussi de l'employeur, on voit que c'est un peu la double peine d'augmenter les salaires. Parce que vous avez moins, vous recevez moins d'aides, moins de primes, et en plus, vous payez plus le salaire et vous avez moins d'allègements
de cotisations. Parce qu'on n'est pas devant une erreur structurelle.
Cette stratégie qui était de dire, en fait, le problème du chômage est au niveau des bas salaires, donc il faut alléger le coût du travail. Et si on veut pas baisser les salaires, il faut faire des primes, etc. En fait, on arrive un peu à bout de cette logique, qui est le risque, effectivement, de rentrer dans des trappes à bas salaire et le problème de monter en gamme, quoi. C'est-à-dire monter en gamme sur les salaires, sur la qualification, sur notre production. Je dis pas que le problème est simple parce que les agents de cotisation ont permis quand même de créer des emplois au niveau des bas salaires.
Ah oui, et puis si vous les remettez, vous aurez
un choc négatif qui est très fort. Donc je veux pas non plus dire c'est facile, c'est évident. Mais par contre, on a créé un espèce de dispositif très particulier. Et quand vous regardez dans les pays de l'OCDE, on est le pays où les allègements de cotisation au niveau du bas salaire, du salaire minimum, sont les plus bas aujourd'hui. Vous avez, il n'y a pratiquement plus rien.
Oui, oui.
On n'a plus de cotisation quasiment au niveau du salaire minimum. Par contre, si vous prenez deux fois le SMIC, on est les plus hauts de l'OCDE.
Oui.
Donc vous avez un espèce de grand écart énorme, en fait, sur le coût du travail entre deux SMIC et un SMIC.
Il y a toujours eu l'argument de dire, c'est pas la peine de le faire sur les salaires plus élevés parce qu'on n'a pas de chômage chez les cadres. Ça a été l'argument éternellement opposé. Là-dessus, oui, Christian Saint-Etienne et puis
Gaël. Il y a deux questions qui se posent. La première, c'est effectivement l'écartèlement de la chaîne de cotisation sociale avec très peu de cotisations sur les bas salaires et beaucoup de cotisations à 2 SMIC, surtout 3 SMIC et 4 SMIC. Et ce qui pose un problème, là, c'est la deuxième question, c'est qu'on est dans une révolution industrielle qui appelle beaucoup de qualifications, ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle, sur la robotisation, sur toutes les questions numériques, qui sont payés 3, 4, 5 fois le SMIC et qui, de ce fait, ont des salaires chargés qui sont plus élevés qu'en Allemagne, en Belgique ou ailleurs.
On a déplafonné les cotisations. En France.
Avec une fuite d'emplois à ces niveaux-là. Donc, il y a une réflexion, vous parliez d'erreurs structurelles. Bon, on connaît les bénéfices de cette politique parce que ça a permis de réduire le chômage des gens peu qualifiés. Mais je pense qu'il faut aborder cette question structurelle, peut-être en imaginant de transformer les aides en un montant fixe, de telle sorte que progressivement, il s'érode au cours du temps. C'est-à-dire
je n'ai pas compris votre idée. Que transformer les aides...
C'est-à-dire qu'au lieu de dire que... Mathieu va m'aider. Au lieu de dire que quand vous avez un salaire de 1500 euros, les charges sociales à 40%, ça va faire 600 euros. Et on vous enlève ça. On va dire on enlève 500 euros jusqu'à 3 SMIC. Et peut-être 400 euros, 300 euros, 200 euros derrière, calculé de telle façon que vous n'avez plus cette barrière.
Ouais, je comprends. Après, il faut continuer à financer le modèle de protection sociale.
Oui, mais...
À coût budgétaire constant, j'imagine. Mais l'idée, c'est que ce soit effectivement un forfait fait un pourcentage beaucoup plus élevé sur un bas salaire que sur un haut salaire.
Mais j'aime bien Christian Saint-Etienne, il vient toujours avec des idées assez nouvelles et des propositions. Parce que c'est bien toujours de faire de l'indignation.
Le gouvernement m'écoute plus.
Le faire de l'indignation. Non, mais en fait, on est super bon pour s'indigner et puis pour faire des diagnostics. Mais il y a un moment, il faut essayer d'apporter des solutions. Par rapport à cette question du SMIC, Gaël Sliman, je ne sais pas si on a déjà demandé aux gens est-ce qu'il faut monter le SMIC. Je pense que la majorité dit oui, mais.
Oui, on l'a déjà demandé. La majorité dit oui, mais c'est une question qui a des conséquences. Donc, moi, je rebondirai sur ce que disait Mathieu il y a un instant et sur ce que vous avez évoqué les uns et les autres. On parlait de smicartisation des classes moyennes. C'est cette question de classe moyenne. Quand on regarde les seuils statistiques, c'est intéressant parce que finalement, la France des gilets jaunes, la France des gens qui se sentent déclassés, la France de ceux qui, dans nos baromètres, nous disent je pense, c'est la première fois que ça arrive, je pense que je vis moins bien que mes parents et que mes enfants vivront moins bien que moi. Ça, c'est une nouveauté. Ça fait quelques années que les gens le disent.
Oui. Avant que c'est sur la table, ça.
Ouais, mais ça s'est aggravé, peut-être. Non, mais c'est pas ça. C'est que jusqu'à présent, jusqu'à il y a une dizaine d'années, vous aviez une majorité de Français qui pensaient au moins que leurs enfants vivraient mieux qu'eux et qui avaient le sentiment de vivre quand même mieux que leurs parents. Ça n'est plus le cas. Et ça tient à une catégorie de population qui est celle que vous décrivez, qu'on décrit tous là, qui ne sont pas des catégories populaires ou précaires, encore moins précaires.
Ceux qui ont été décrits par Gabriel Attal le week-end dernier.
Ceux qui sont autour du salaire médian en réalité, donc qui vont se situer sur
entre
les 20% et les
50%. Entre 1700 et 2000.
Ouais. Autour des 2000 euros, un peu plus, un peu moins.
Mais celui qui a le sentiment de bosser, de n'avoir jamais droit à rien et de payer pour ceux qui ne bossent pas.
Qui ont parfois fait des études, qui ont parfois des qualifications. enfin, qui ont des qualifications, qui ont des diplômes, et puis souvent, parce qu'il faut que la foudre tombe au même endroit, qui du coup sont des gens qui ont déjà été chassés des centres-villes parce qu'ils n'avaient plus les moyens de vivre dans des grandes villes où, où l'immobilier a flambé, et donc
ils sont installés en zone prioritaire dans les HLM.
Ils sont installés. Ah ben non, ça c'est. Et puis ils sont installés en zone périurbaine. Ils doivent prendre leur voiture pour aller au travail. Donc à chaque fois qu'il y a des conséquences sur les prix de l'énergie ou des mesures politiques écologiques, ils en souffrent. Ce sont ces catégories-là, quand vous regardez les cartes de France sur les zones périurbaines, qui aujourd'hui sont complètement désaffiliées politiquement, s'abstiennent à près de 50% à des élections majeures comme la présidentielle, ou votent pour les partis anti-système, extrême droite, extrême gauche. Et ce sont les gens qui sont vraiment en colère.
Vous reprenez les propos de Gabriel Attal, il a fait Parisien et BFM TV le week-end dernier. Il a martelé ce message pendant toutes les émissions ou toutes les interviews. Je veux parler à la France qui bosse et qui a le sentiment qu'elle travaille, mais qu'elle est juste un peu au-dessus des niveaux qui permettent d'accéder aux multiples chèques et subventions. Donc elle ne les touche pas.
Oui, mais
et par contre, elle a le sentiment de bosser pour ceux qui ne bossent pas.
Oui,
mais c'est ça que vous l'écrivez.
Le problème, c'est que Nicolas Sarkozy avait inventé il y a une quinzaine d'années un concept qui a marché pendant un moment, qui était l'idée de nommer les problèmes et de s'indigner faisait, notamment sur la sécurité, que les gens se disaient que même si vous n'aviez pas résolu le problème, quelque part, c'était déjà pas mal. Aujourd'hui, on voit que ça ne suffit plus. Donc le fait de nommer le problème, et je ne sais pas comment le résoudre, le fait de nommer le problème, comme l'a fait avec talent Gabriel Attal, ne suffit pas à convaincre les gens qui le vivent que les choses vont s'améliorer.
Ce qui m'a frappé, c'est quand même que vous prenez le dernier chèque en date, le chèque bois, là, qui, j'espère, pas en bois, les niveaux de revenus pour y avoir droit, c'est 1,7 SMIC pour une personne seule. C'est beaucoup plus que d'habitude. Mmh. Pareil, le chèque énergie, on a annoncé qu'on élargissait la partie exceptionnelle du chèque.
Mais ils ont pleinement.
Et là, c'est plus 6 millions de foyers bénéficiaires, mais 12 millions.
Vous avez vu que le bouclier tarifaire n'a pas été ciblé. Hein.
Non,
que la question serait posée.
Elle s'est posée.
C'est-à-dire qu'effectivement, et d'ailleurs, elle se posera peut-être en 2024. Et c'est où est-ce qu'on met le ciblage? Parce que si on met bas. En fait, on va exclure une grande partie de la classe moyenne. Si on le met haut, ça coûte très cher, vu qu'il y a quasiment tout le monde. Quoi. Donc, la question du ciblage devient très complexe. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses ciblées qui peuvent avoir un sens, hein, mais qui excluent de fait une population qui a l'impression, effectivement, de voir son revenu stagner, voire baisser. Et malgré tout, effectivement, on a tendance un peu maintenant aujourd'hui à opposer les classes sociales contre les classes moyennes et les plus modestes.
C'est un vrai sujet politique. Vous vous souvenez, un matin, j'avais ouvert cette émission, j'avais fait la chronique sur BFM TV sur un chèque, une subvention, quelque chose, fuel, je sais pas, alimentaire. Et là, j'ai le tombereau de tweets qui disaient tous la même chose. Ouais, bah, c'est plus la peine de bosser. Ouais, bah, c'est toujours ceux qui bossent pas qui ont droit à des trucs. Et moi, je bosse, j'ai jamais droit à rien et je paye des impôts. Mais j'en avais pas reçu deux, j'en avais reçu 60. J'en avais compilé 4 ou 5 que j'avais lu en intégralité, y compris avec les mots un peu du fond du cœur. C'est impressionnant. Je pense qu'il ne faut pas négliger cette histoire.
Oui, mais il y a deux sujets. Il y a le sujet qui oppose les gens qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Pas ou plus parce qu'ils sont au chômage ou à la retraite, ou étudiants éventuellement. Et puis, il y a un autre sujet qui est celui dont on parlait là, qui est les gens au SMIC, ils travaillent. Donc, qui est entre catégories sociales qui travaillent, dans les deux cas, ceux qui sont sur les plus bas salaires bénéficient légitimement d'aide, mais ceux qui sont un petit peu au-dessus n'en bénéficient pas toujours, et du coup ont ce sentiment de déclassement, en fait. C'est ça ce qui les nourrit.
Et moi, je pense même qu'il Mathieu peut Plan. Y avoir encore un élément supplémentaire qui va s'ajouter avec cet épisode d'inflation. C'est aussi, effectivement, entre les actifs et les retraités. Parce qu'aujourd'hui, et assez légitimement, les retraites ont été revalorisées pour garantir le pouvoir d'achat, mais ce n'est pas le cas des salaires. Si on demande aux actifs de travailler plus longtemps, mais que si le salaire augmente moins vite que les prestations de retraite, ça risque d'être compliqué. Donc dans l'épisode actuel, ça ne va pas être facile de faire accepter aux actifs de travailler plus longtemps pour garantir la retraite ou le pouvoir d'achat des retraités si jamais les salaires n'augmentent pas plus. C'est ça que je veux dire. Et donc, vous avez aussi un choc générationnel qui n'est pas évident à gérer dans cette affaire.
On était partenaire d'une enquête aussi ce matin, poser la question aux gens, est-ce que les entreprises doivent monter les salaires quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire même si la boîte va super mal. 69% des gens disaient oui, il faut monter les salaires. Ah non, mais même si l'entreprise n'a pas les moyens, il faut qu'elle les monte. 69% disent ça. Je veux une précision un peu technique. Chaque fois qu'on parle du SMIC, là, c'est pas arrivé là, mais je sais que ça arrive très souvent. On me dit, ah ben vous mentez parce que moi je suis au SMIC, mais j'ai pas 1330. Oui, mais c'est un salaire horaire le SMIC et pas mensuel. On l'exprime toujours mensuel pour lui donner pour l'évaluer, savoir ce que ça
représente. Si on est à 20 heures de travail, on n'a pas 1500.
C'est les 1330 euros net. C'est 35 heures, temps plein, 35 heures.
Et après, il y a la prime d'activité qui s'ajoute.
Christian Saint-Etienne, le gouvernement, Matignon, Elisabeth Borne envoie au préfet aujourd'hui une sorte de vadémécum, un peu un mode d'emploi d'éco-watt 2022-2023. Il va faire froid, on pense qu'on passe de décembre, en janvier on ne sait pas trop. Éco-watt, 5 niveaux d'étape jusqu'à d'éventuelles grosses coupures d'électricité. Voilà, on est en train de préparer le terrain pour savoir où est-ce qu'on va délester, où est-ce qu'on va baisser la tension, où est-ce qu'on va imposer des coupures temporaires jusqu'à des risques plus importants. Ça sent un peu l'inquiétude au plus haut niveau de l'État quand même. Et donc là, le gouvernement maintenant fait son mode d'emploi de comment on passe l'hiver et comment on évite les ruptures d'approvisionnement. Quoi.
Oui, mais le problème, ce n'est pas seulement cet hiver. C'est que le gouvernement ne planifie aucune progression de la production d'électricité sur les 20 prochaines années. C'est-à-dire que si c'est le premier hiver de 20 hivers où on skye, c'est pas la même chose que si c'est un hiver et puis qu'on trouve des solutions après. Or, ce qui est assez spectaculaire, c'est que depuis la fin août, la première ministre ne manie que les annonces de coupes ou les annonces de punition pour les entreprises, et à aucun moment elle n'annonce de programme de hausse de la production.
Ils n'ont rien sous le coude.
Mais ils n'ont rien sous le coude parce qu'il n'y a pas de planification. Alors de ce point de vue, d'ailleurs, moi j'appelle à une enquête parlementaire sur les politiques de production d'énergie depuis 15 ans, parce qu'il y a eu une déficience au niveau de l'État qui est absolument monstrueuse.
Pour réussir à choper quelques têtes écologistes, on a décidé de prendre des décisions structurelles débiles. Donc à un moment, ça se paye.
Oui, mais à un moment donné, il faut quand même
Sûr que Nicolas Hulot ait changé la vie de la France en restant un petit peu au ministère.
Oui, mais il y a un moment donné, il faut prendre en compte tous ces éléments. En plus, vous venez de dire la raison qui était de faire plaisir à des partis qui permettaient d'avoir la majorité. C'est pas le point central, c'est qu'une fois que vous êtes au pouvoir, vous devez exercer une responsabilité sur le long terme. Maintenant, on est au milieu d'une crise. La première ministre est polytechnicienne, sinon ça sert à rien. On prend quelqu'un qui a bac moins 10. Elle gouverne exactement comme quelqu'un qui a bac moins 10, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas capable de se projeter sur le long terme. On aimerait bien avoir, de la part d'une polytechnicienne, un projet de développement de la production d'électricité. On sait, alors on nous annonce des EPR, mais on sait que même si on lance immédiatement la construction d'EPR, le premier c'est dans 15 ans, la question c'est qu'est-ce qu'on fait avant 15 ans. Donc il faut pousser massivement la production d'énergie renouvelable, mais en attendant, il faut mettre en œuvre une vingtaine de centrales au gaz qui permettent de faire face au pic. Donc c'est un point clé, et il faut également travailler sur les éléments de stockage d'électricité. On sait que c'est le point faible pour l'électricité, mais il y a au niveau mondial une progression des capacités de stockage qui est considérable. Là aussi, donc, que ce soit sur la production, que ce soit sur l'écrêtement des pics et sur les capacités de stockage, on n'a rien. Deuxième élément où on n'a rien, c'est quand même un problème structurel depuis une dizaine d'années, c'est qu'EDF n'investit plus sur les barrages hydroélectriques, et on sait qu'on pourrait augmenter la production dans ce domaine d'au moins 15%, parce que on a un problème de propriété des barrages. Puisque la France a très très mal négocié depuis une quinzaine d'années un certain nombre de directives au niveau européen. C'est une conjonction de directives sur l'eau et d'autres directives qui font que nous deux, alors que les Allemands ont négocié une clause d'exclusion les concernant, nous sommes obligés de remettre en jeu la propriété des barrages. Donc EDF attend une décision, ça fait au moins 15 ans qu'elle attend une décision sur ce sujet, et elle n'investit plus sur les systèmes de production, les turbines, ainsi de suite. Donc là aussi, il faut profiter de la crise pour résoudre ce problème avec Bruxelles, obtenir une décision. S'il faut mettre en jeu la propriété des barrages, on le fait en urgence. Mais enfin, EDF sait gérer les barrages, et on demande à EDF un programme d'urgence pour relancer. Et ça peut se faire en 18 mois, l'augmentation, et d'autant plus que EDF vient de racheter le producteur de turbines. Donc on sait. Moi j'attends un état stratège qui mette sur la table une vision de la production d'électricité, et on n'a rien. C'est le vide absolu et c'est insupportable.
En face, vous avez un chèque bois qui vient d'être annoncé, un chèque fuel qui vient d'être annoncé aussi, une ristourne carburant.
On sait que la révolution industrielle dans laquelle nous sommes, c'était la révolution de l'informatique. L'informatique, ça travaille avec l'électricité. On sait que la planification de toutes les prochaines guerres commence par la destruction des centrales électriques pour mettre les pays à genoux. Donc, vous avez RTE qui ne fait pas son boulot aussi. On avait une capacité de production historiquement 10% supérieure à la consommation. On a éradiqué ce surplus. Voilà, il y a toute une stratégie à mettre en œuvre et ni le président ni le Premier ministre ne semblent s'intéresser au sujet qui est pourtant clé pour l'avenir.
Et le dernier qui a vu un peu de clairvoyance sur la place que devait occuper le nucléaire, c'était Nicolas Sarkozy.
Mais moi, je vais au-delà du nucléaire, je parle de l'électricité.
Je vous rappelle qu'on a 20 réacteurs à l'arrêt, c'est beaucoup trop. On en avait 24 il y a une semaine, 26 il y a 15 jours. Vous voulez dire un mot là-dessus, en 3 minutes, sur
alors,
Gaël
un mot sur le nucléaire, parce que même si on parle...
Ça a changé l'opinion sur le nucléaire,
L'opinion s'est complètement retournée, parce que pendant les années de la présidence Hollande, où il était question de réduire la part du nucléaire et d'aller vers du, à terme...
Fermer 14 centrales.
Exactement. L'opinion avait accompagné, parce que les Français sont très attentifs à l'environnement, mais aujourd'hui, le sentiment général, c'est que finalement, le nucléaire n'est pas forcément l'ennemi de l'environnement et qu'en tout cas, outre les énergies renouvelables, c'est une énergie qui est finalement beaucoup plus propre que ne l'est le charbon, par exemple. Je pense que, si je ne me suis pas trompé, si j'ai bien vu qu'on allait avoir des pénalités de Bruxelles, autour de 200 millions sur notre manque à notre consommation d'énergie nucléaire, alors que l'Allemagne, elle, n'aura pas ces pénalités et qui est au charbon.
J'ai zappé.
Il m'a semblé voir ça. Si jamais c'est
selon des directives que la France a votées.
Selon des directives que la France a votées, mais contre lesquelles, je crois, Bruno Le Maire s'était insurgé. Mais si c'est vrai, ça promet aussi un sacré scandale. C'est-à-dire que vous avez l'Allemagne qui pollue à tour de bras avec du charbon.
Plusieurs centaines de millions de tonnes.
Voilà, et qui ne sera pas pénalisée, au contraire. Et la France qui est sur du nucléaire, qui le serait. Ça peut choquer pas mal l'opinion.
De toute façon, le marché unique de l'énergie avec la tarification au coût marginal, c'est très bien dans un monde de bisounours qui tourne parfaitement. Quand il y a un gros grain de sable, objectivement, ça ne fonctionne plus. 1 minute 30, oui, Mathieu.
Non. Les choix stratégiques sur l'énergie, effectivement, l'Allemagne est un bon exemple des mauvais choix aussi. Hein. Nord Stream 2, la fermeture. Voilà, la vision du monde telle que l'avait l'Allemagne et en partie l'Europe, c'est quand même assez, c'est écroulé rapidement avec la guerre. Et donc avec les enjeux stratégiques autour de l'énergie, et on voit que c'est vital.
Oui, mais l'énergie, c'était un des seuls avantages comparatifs qu'on avait.
D'ailleurs, il faut se rappeler que, effectivement, on a construit quand même beaucoup de centrales suite au premier choc pétrolier. Justement pour être moins dépendant des hydrocarbures. Aujourd'hui, on est face à un double problème, c'est effectivement géostratégique, c'est comment on se fournit en énergie, et un problème écologique, comment on décarbonne notre production. Et donc la solution, c'est effectivement de produire plus d'électricité, plus la stocker, etc. Mais on voit que ça se fait pas du jour au lendemain, et c'est compliqué.
Non, il faut commencer.
Il faut commencer aujourd'hui, on peut pas, il y a effectivement le nucléaire et les énergies renouvelables, ça va prendre du temps. Effectivement, il va y avoir une demande électrique énorme, on le voit notamment sur la question industrielle. Donc si on veut décarboner notre production industrielle, il va falloir fournir
tout rouler sans
à l'électrique.
Il y a eu, on le sait, les capacités de production doivent être augmentées.
Il faut doubler la production électrique en moins de 25 ans. On sait le faire. On a su construire des centrales il y a 40 ans.
Et donc c'est le sujet numéro un. C'est le sujet. Il faut, pour des raisons stratégiques et pour des raisons écologiques.
C'était mardi. J'ai rencontré une entreprise française qui est le fruit du mariage de Green Yellow, qui est un opérateur solaire, et de Engie. Fascinant. Il s'appelle Reservoir Sun. Ils investissent en couvrant les parkings et les toitures. Le potentiel d'électricité que l'on peut générer en couvrant tous les parkings et toutes les toitures industrielles de France, l'ADEME a fait des calculs, on est sur une très très grosse... C'est plus que le parc.
Donc il y a des choses à faire. Juste, je voulais rappeler que la facture énergétique cette année risque d'être d'autour de 100 milliards d'euros, ce qui est pas rien quand même, ce qu'on paye à l'étranger.
Il y a juste un détail, mais dans la circulaire de Matignon envoyée au préfet, on apprend, vous pouvez le supposer, mais s'il y a des coupures, il n'y a plus de téléphone. Voilà. Même si votre téléphone a de la batterie, c'est fini. Oui. Voilà. Il semblerait qu'on puisse uniquement, éventuellement, avec le 112 qui ratisse très large, peut-être pouvoir appeler des secours en cas de nécessité. Merci à vous, Mathieu Plane, aujourd'hui, Christian Saint-Etienne, Gaël Slimane, à l'occasion du baromètre Odoxa avec Abeille Assurance.